personne n'a amené ses rouleaux. Parce qu'on pourrait aussi amener la Bible en rouleaux. Hein. Au début, l'ancienne alliance était écrite sur des rouleaux. Vous savez qu'elle existe aussi, la parole de Dieu, en braille. Voilà. Imaginez un petit peu, la Bible en braille, ça représente plusieurs mètres de hauteur. Hein. Et quand des frères et sœurs malvoyants ou aveugles, alors maintenant ils ont bien sûr possibilité de cassette, mais certains lisent encore le braille très très couramment et ils bénissent le Seigneur pour cette lumière hein, qui est dans leur cœur, même s'ils ne voient pas avec les yeux, ils serrent la parole sur leur cœur, c'est une belle image. Alors on va ouvrir cette parole ce matin dans l'évangile de Jean chapitre 6, juste peut-être pour relire le contexte, quelques versets auparavant du verset qu'on va méditer ensemble, peut-être qu'on pourrait lire à partir du verset 56, Jean 6, 56, c'est un entretien de Jésus suite à la multiplication des pains. Jésus va rappeler, va révéler surtout qu'il est le pain de vie. Et voilà ce qu'il partage à partir du verset 56. « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. » Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé. Eux sont morts, mais celui qui mange et de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. » En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre va lui répondre, « Mais Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Amen. » Et cette parole de Pierre résonne, il me semble, depuis maintenant plus de 2000 ans, elle arrive encore aujourd'hui dans nos cœurs, mais « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Seigneur, mais à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Si j'ai relu le contexte, c'est pour mieux comprendre, saisir cette réponse, cette parole, cette exclamation de Pierre. Hein. C'est un temps de crise, où Jésus n'est plus aussi populaire dans son ministère qu'au début. Hein, au début, c'est l'année de popularité où Jésus bien guérit, bénit, fortifie, renouvelle, etc. Et puis là, il vient de se passer quand même un miracle extraordinaire qui est relaté dans les quatre évangiles, c'est le seul d'ailleurs, c'est la multiplication des pains et des poissons. Et à partir de ce moment-là, bien, Jésus va commencer aussi à enseigner la foule, les disciples, sur la réalité de son ministère. Il dit, mais je suis le pain de vie, ne vous attachez pas simplement à ce que vous avez reçu comme nourriture, du poisson et du pain, c'était déjà extraordinaire. Hein. Mais il commence à aller au fond des choses, et il enseigne bien sûr qu'il est le pain du ciel devenu le pain de vie, le pain du ciel. Et à partir de ce moment-là, il est dit que quelques-uns vont commencer à murmurer. Vous connaissez hein, les murmures. Alors, il y a d'abord les juifs, les religieux qui murmurent, et puis il y a même ses disciples qui sont gagnés par ces murmures. Et Jésus, finalement, bien, sait que parmi cette foule, parmi ces disciples, il y en a qui ne croient pas, il y en a, et on va le voir tout à l'heure, bien, qui vont se retirer et qui vont arrêter de marcher avec lui. Et dans ce temps de crise, où bien, il y a un bouleversement, il y a séparation, il y a des choses qui se passent, eh bien, Jésus pose cette question, mais et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ? Peut-être le moment pour certains, on verra tout à l'heure ce que signifie cette parole, mais en tout cas, eh bien, c'est dans ce contexte de crise, eh bien, que Pierre va proclamer, va partager cette parole, eh bien, mais Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et on va voir ce matin, bien, qu'est-ce que cela révèle, qu'est-ce que cette parole de Pierre révèle, qu'est-ce qu'elle exprime également, et puis quel est le sens de cette parole. Sans être exhaustif, bien sûr, hein, quand on parle de la vie éternelle, des paroles de vie éternelle, on est tellement limité, mais que ce matin, en tout cas, nous puissions avoir un tout petit aperçu. Alors, qu'est-ce qu'elle révèle, cette parole? Mais, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Eh bien, c'est une prise de position pour la vérité. C'est une prise de position pour la vérité. Une prise de position. Une prise de position. C'est un temps de crise. Je le répète, malgré les miracles, malgré les bénédictions que même peut-être certains ont reçues de la part de Jésus, bien, il y en a qui ne croient pas, il y en a qui vont s'éloigner, il y en a qui vont se retirer, il y en a qui vont murmurer. Et pour nous, ce matin, on pourrait se dire que finalement, personne ne peut rester indifférent devant la parole de Jésus, devant les œuvres de Jésus. Même ceux qui disent « je ne me positionne pas », eh bien, ils prennent quand même position. Ils prennent quand même position pour dire « ah ben moi, alors j'espère qu'il n'y a pas de Normands, hein, les Normands, ce qui paraît, disent peut-être ben que oui, peut-être ben que non, je ne sais pas, hein, voilà. Il y a des Suisses peut-être, hein, alors les Suisses, c'est la neutralité absolue, hein, etc. Mais même en disant peut-être ben que oui, peut-être ben que non, ou moi je ne prends pas position, on prend quand même position. Jésus l'a dit lui-même, il a dit « mais celui qui n'est pas avec moi, c'est pas ma parole, hein, c'est la parole de Dieu, il est contre moi. » Et celui qui n'assemble pas, ben, il disperse. Celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Et même tous ceux qui vous disent, moi, je ne prends pas position, je suis ni pour, je suis ni contre, eh bien, ils prennent quand même position. Parce que dans ces temps de crise, finalement, bien, malgré tout ce que vivent certains disciples, certains juifs qui vont s'opposer, eh bien, Pierre, au contraire, lui, il va prendre position. C'est une prise de position. À ce moment-là, Pierre ne veut pas quitter Jésus. D'ailleurs, on le sait, hein, Jésus va l'avertir, qu'à un moment donné, il le reniera. C'était dans le plan, mais on sait très bien que Pierre va apprendre une leçon d'humilité, où il ne pourra pas se confier simplement dans sa volonté, dans sa perception. Hein, « Seigneur, jamais je ne te quitterai », etc. On sait ce qui va se passer. Mais effectivement, à ce moment-là, bien, il a cette même réalité. Il aura besoin d'apprendre une leçon d'humilité plus tard, et Christ lui donnera à lui, bien sûr, mais en tout cas, bien, il ne veut pas quitter Jésus. Mais Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? Et ce matin, peut-être qu'on est confronté aussi, dans nos vies personnelles, à certains conseils, à certaines réalités, à certaines pressions, que par le Saint-Esprit, nous puissions dire, Seigneur, mais finalement, après avoir réfléchi, après avoir tourné en boucle dans nos têtes, mais à qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Le verset 66, il est terrible pour certains, puisqu'il est dit « Ils arrêtèrent de marcher avec Jésus. » Ils arrêtèrent de marcher avec Jésus. Ils vont laisser Jésus s'éloigner. Ils vont laisser Jésus passer devant. La Bible, au contraire, nous rappelle dans Galates 5:16 « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre, de votre chair. » Suivre Jésus, c'est prendre position en marchant désormais dans un nouvel esprit, dans de nouvelles valeurs. On le sait, notre monde, nos concitoyens savent parfois prendre position. Et ils le font, alors parfois c'est pour des bonnes causes, pour des bonnes idées, puis parfois c'est pour des situations, des événements bien qui sont complètement... j'allais dire aberrante, voire immorale. Et pourtant, bien, ces gens prennent position. Ils disent, voilà ce que je crois, voilà ce que je veux, voilà ce que je vis. Jésus nous a rappelé, nous a dit, mais vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins, et ainsi, vous serez mes références, vous serez mes modèles. Vous serez donc ceux sur qui je vais pouvoir m'appuyer ici-bas. Vous serez mes lumières. Et ce matin, bien, nous sommes appelés là aussi, face à notre monde, eh bien, en prenant position pour Jésus, nous avons une position remarquable et remarquée. Et le premier qui le remarque, bien sûr, c'est l'adversaire de nos âmes qui fera tout pour nous déstabiliser, pour nous empêcher de prendre position, pour nous empêcher de dire « Mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et puis cette prise de position, c'est une prise de position pour la vérité. C'est une prise de position pour la vérité. Jésus a dit, Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, Vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, qu'est-ce qu'elle fera? Elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, c'est une prise de position pour la vérité. Vous le savez, hein, jamais la parole, avec un grand P ici, n'a été aussi diffusée. Hein. Les moyens techniques sont tels que en Australie, aux Antipodes, pratiquement on peut avoir en direct un événement là, avec quelques secondes de décalage, bien sûr, mais pratiquement maintenant, on a l'info en direct dans le monde. Et cette parole, bien sûr, elle est diffusée. Quelqu'un a dit, désormais, on n'a plus un monde, mais on a un village. Hein, le monde est devenu un village au travers de la communication, mais j'ai marqué, au prix de quel genre de communication? Au prix de quel genre de communication? Qui croire aujourd'hui? Hein, la parole, nous le savons, bien, elle est manipulée, elle est méprisée, elle est déformée, elle est détournée. Et honnêtement, aujourd'hui, bien, on croit qui? On croit qui? Hein, on prend renseignement à quelqu'un, la personne sur la même chose vous dit le contraire, etc. Vers qui se tourner? Vers qui se tourner? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Dans Colossiens, au chapitre 1er, versets 4 à 5, il est dit ceci. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ, de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, nous a précédemment fait connaître. La parole de vérité. Et on sait qu'il y a un dicton qui nous dit que toutes vérités ne sont pas bonnes à dire, c'est certainement, mais toutes vérités ne sont pas bonnes à dire. Et on est confronté. Nous sommes dans un monde, de toute façon, de mensonges, de calomnies, d'immoralité. Et si nous vivons ce matin de telles situations, bien, rappelons-nous cette parole de Pierre, une prise de position pour la vérité, quoi qu'il arrive. Seigneur, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vérité. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles, Seigneur, qui touchent mon cœur et qui nous libèrent, qui nous affranchissent. Hein, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que Dieu nous aide également ce matin à être des hommes et des femmes qui n'hésitons pas à prendre position pour la vérité. Qu'est-ce qu'elle exprime, cette parole là aussi de Pierre? Eh bien, elle exprime sa foi. Elle exprime sa foi en Jésus. Et quand nous-mêmes, nous reprenons cette parole dans notre cœur, c'est peut-être une interpellation dans la prière. Seigneur, mais à qui irions-nous? Où est-ce que je peux aller? En qui je peux me confier? Eh bien, c'est une expression de foi en Jésus. On pourrait dire, sans jeu de mots, hein, c'est bientôt les fêtes de Noël, que là, dans ce moment, c'est une crise de foi. F-O-I, voilà, hein, que vivent ces disciples, parce que certains qui ont cheminé avec d'autres voient qu'ils se séparent, et ça remet en question. Ça remet en question, bien entendu. On se dit, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et ces disciples sont bouleversés. Il y a une véritable crise de foi. Certains estiment que les paroles de Jésus vont à l'encontre de leur conception de Dieu, de leur moralité, de leur confort, de leur croyance, de leur intérêt. Et toutes ces paroles viennent en opposition à ce qu'ils vivent, et ils pensent que finalement Jésus va les empêcher de s'épanouir. Et alors, ils vont dire, désormais, nous te quittons, nous nous séparons de toi. Et il y a une question que Jésus nous pose ce matin, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Waouh! Jésus va jusque-là, alors qu'on pourrait dire c'est le meilleur des pasteurs, c'est le meilleur des enseignants, etc. Quelqu'un a dit un jour, finalement, Jésus est ce pasteur qui au départ avait une église de 70 disciples, après il s'est retrouvé seulement avec 12, et en plus dans les 12 il a choisi quelqu'un qui était un voleur. Quelle église voudrait d'un tel pasteur? Alors, c'était juste pour faire le parallèle. Et on pourrait dire, et là en plus, Jésus leur dit, vous aussi, vous pouvez partir. Ne voulez-vous pas aussi partir? Jésus nous laisse entièrement libres d'exprimer notre foi. Et la première pensée pour cette foi, ce matin, que Pierre exprime, c'est que cette foi, elle se vit dans une totale liberté. On ne peut pas imposer la confiance, vous le savez, dans une relation. Hein. On aimerait bien d'abord, parfois, imposer. Mais la confiance ne s'impose pas. La confiance, elle se gagne, elle se vit. Mais en tout cas, elle se vit dans une totale liberté. Vous rappelez de ces 10 lépreux. 10 lépreux, ils sont tous, bien sûr, guéris. Hein, nous le savons. Et puis, un seul va revenir librement hein, pour remercier Jésus. Et les autres, et les 9 autres, où sont-ils? Pourtant, ici, bien, cette foi s'exprime dans cette liberté. Et ce matin, bien, nous sommes libres, nous le savons, de choisir, de persévérer, de prendre position, ou de nous retirer. Et puis, cette foi, non seulement elle se vit dans la liberté, mais la foi, c'est aussi une expression de reconnaissance. Pierre est reconnaissant. La foi, ce n'est pas simplement l'expression d'une confiance pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, un exaucement de prière, une bénédiction. Et Dieu le fait, on est bien d'accord. Dieu exauce la prière, Dieu nous bénit, Dieu. Mais ce n'est pas seulement ça, la foi. La foi, c'est aussi, bien, quel que soit ce que je vis, quelles que soient les réponses ou les non-réponses à mes prières, quelle que soit la bénédiction ou l'épreuve que je vis, c'est de nourrir ma reconnaissance. C'est de nourrir ma reconnaissance, c'est la foi. Quand rien ne va comme je veux, quand ma prière est comme stoppée, quand Dieu ne répond pas à mes prières comme je souhaiterais, je continue à avoir cette foi. Et je continue à dire à Dieu, « Seigneur, à qui irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Et à ce moment-là, eh bien, ma foi va nourrir ma reconnaissance. On chante parfois un cantique, « Offrons au Seigneur reconnaissance ». Offrir, il y avait dans les sacrifices également, vous relirez hein, dans Lévitique 6, 11, il y avait aussi des sacrifices de reconnaissance. Ce n'était pas un sacrifice de culpabilité, ce n'était pas un holocauste, ce n'était pas un sacrifice d'expiation, c'était un sacrifice de reconnaissance. Tout simplement être reconnaissant et on pouvait, j'allais dire, intégrer ce sacrifice à d'autres sacrifices, mais il y avait un sacrifice de reconnaissance. Seigneur, à qui irions-nous ? À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. C'est une parole de reconnaissance qui exprime ma foi. Et ce matin, ma foi, elle est reconnaissante pour tout ce que Jésus est devenu pour moi, pour ma vie, pour tout ce qu'il m'a accordé, certes, mais pour tout ce qu'il est devenu. Il est devenu le bon berger sur lequel on peut s'appuyer. Et nous avons là aussi un message. Continuons à prier pour notre sœur Marie-Louise, hein, Herblanc, elle est dans ses derniers moments à l'hôpital. Mais si dans ces moments, bien, il n'y a pas cette reconnaissance, eh bien, notre sœur et puis son entourage seraient désespérés. C'est cette foi reconnaissance qui nous permet d'être là quand quelqu'un bien, va partir, d'avoir malgré tout cette espérance, cette foi, cette reconnaissance, et puis de pouvoir bénir, de pouvoir prier dans les derniers moments de cette vie sur cette terre. C'est cette foi reconnaissante qui peut nous faire dire devant une telle situation, mais Seigneur, à qui irions-nous ? Quelle parole, quelle attitude avoir ? Heureusement, que notre foi est reconnaissante. Amen. À qui irions-nous ? Il le dit, il l'exprime, mais nous avons reconnu que toi, tu es le Christ. Pierre reconnaît dans ce temps de crise que Jésus est le Sauveur, le Seigneur, et que le meilleur pour lui, c'est de rester dans sa présence. Si nous vivons, et ça peut arriver un temps de crise ce matin, bien, continuons comme Pierre à exprimer cette parole, mais Seigneur, à qui irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie, je n'ai pas une foi peut-être aussi, entre guillemets, performante qu'eux, mais ma foi, en ce moment, elle est reconnaissante, et je te bénis. Et puis, j'ai noté qu'en temps de crise, on peut être tenté parfois d'aller voir ailleurs. Hein, parfois, c'est même conseillé. Vous savez que dans le couple, parfois, lorsque le couple traverse une période difficile, eh bien, certains vous conseillent, allez voir ailleurs. Hein, allez voir ailleurs, et puis après, ça va donner du piment à votre couple, ça ira mieux. Hein, quel conseil destructeur ! Dernièrement, quelqu'un qui, dans le showbiz, qui est connu pour ses phrases sexuelles, excusez-moi, disait quand même ceci, et je l'ai noté venant de ce personnage, la fidélité dans le couple est le meilleur garant pour construire une relation épanouissante. Pourtant, c'est une personne qui a l'habitude de fréquenter, je ne sais même pas s'il est marié, etc. Mais il va dire, il va reconnaître ceci, que la fidélité, la confiance, on pourrait dire la foi pour nous, c'est la meilleure, le meilleur garant pour construire une relation épanouissante. La foi, la fidélité, la confiance en Jésus, c'est le meilleur garant pour construire avec lui une qualité de vie épanouissante. Amen. Ne soyons pas tentés d'aller voir ailleurs au niveau spirituel, mais là aussi, reconnaissons ce matin, eh bien, mais Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et puis, je suis tombé aussi dans cette foi, dans le psaume 119, verset 30, « Je choisis la voie de la fidélité, je me conforme à tes ordonnances. » Et la foi, on voit ici, c'est aussi un choix. C'est ainsi un choix. Bien sûr que lorsque la foi se manifeste, on peut avoir des sentiments, des émotions, on est bien d'accord. Hein. Jésus va tressaillir de joie par le Saint-Esprit, on est bien d'accord. Mais avant tout, la foi, ce n'est pas un sentiment, c'est aussi un choix. Hein, certains, peut-être, sont levés ce matin et disent oh, « ce matin, je sens que j'ai la foi » ou alors ben, « je sens rien du tout, j'ai plus la foi ». Pas une question de sentiment, mais c'est une question de choix. Le psalmiste va dire, je choisis la voie de la fidélité. Je choisis de me conformer à ta parole. Alors, bien entendu, on est bien d'accord que ça ne veut pas dire qu'à tous les coups, on va être en conformité avec la parole de Dieu dans nos vies. Parce que ça se construit, parce qu'on est failli, parce qu'il y a encore notre chair qui s'oppose, etc. Mais ça veut dire quand même que ma motivation, mon objectif suprême, mes valeurs, eh bien, les moyens seront employés pour me nourrir de la parole de Dieu et me laisser transformer par la parole de Dieu de plus en plus et de mieux en mieux. Parce que Romains 10, 17 nous dit quand même ceci, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu. Et ma foi est nourrie Et ce matin, bien, à quel autre irions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, exprime notre foi, exprime aussi nos choix. Oui, la foi, c'est un choix de vie. Je choisis de me conformer à la parole du Seigneur. Hein. On parle parfois d'une confiance aveugle. Hein, vous connaissez l'expression. Et il est vrai que vous savez que maintenant, certains aveugles ont des chiens guides. Des chiens guides. Mon père en a eu un pendant des années et des années. Et au départ, eh bien, il fallait vraiment que mon père accepte de perdre ses points de repère et puis se laisse vraiment guider par sa chienne. Alors c'était quand même une chienne qui était bien dressée, hein, parce que bon, elle pouvait le mener à la boulangerie, à la boucherie, il y avait quand même une dizaine de lieux, et puis effectivement, quand il y avait un trottoir, elle s'arrêtait, quand il y avait un feu rouge, elle s'arrêtait, etc. Enfin, mais il fallait quand même lâcher prise et avoir une confiance aveugle. Eh bien, pour Jésus, c'est la même chose. Alors on va nous traiter de fanatiques, on va nous traiter de fous furieux, mais oui, on pourrait dire sans être excessif, eh bien ayons une confiance aveugle en Jésus, parce qu'il est celui qui jamais, bien sûr, ne nous trahira et jamais ne nous décevra. Et puis je termine, quel est le sens, ou plutôt l'essence de ces paroles, parce que quand Pierre nous dit, eh bien, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Là, on ouvre la porte de l'éternité et pour l'instant, on ne peut pas la saisir, on peut pas la comprendre totalement. Même avec notre foi, eh bien, on en saisit une toute petite partie. Et pourtant, hein, lorsqu'on parcourt seulement l'évangile de Jean, on ne va pas tout le parcourir ce matin, mais seulement quelques exemples dans les chapitres suivants. D'abord, rappelons-nous que Jean identifie Jésus comme étant le Verbe incarné, la parole de Dieu. Hein, c'est Jean qui dira qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Vous connaissez également. Et on pourrait dire, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es la parole éternelle. Tu es le Verbe incarné. Jésus forme un tout. Ce qu'il dit, ce qu'il est, ce qu'il accomplit, tout ça, ça fait qu'un. Jésus dit ce qu'il pense. Il pense ce qu'il dit. Et puis quand il dit ce qu'il fait, hein, il fait ce qu'il dit. Voilà, vous pourrez méditer ça le jour du réveillon si vous n'avez pas d'autre chose à faire. Hein. Mais ce n'est pas philosophique, c'est une réalité. C'est une réalité. Ce qu'il est, ce qu'il dit, ce qu'il accomplit, forme un tout. Jésus est la parole, Jésus a la parole. Hein, voilà pourquoi il rappellera, on l'a lu, « Mais mes paroles sont esprit et vie. La terre passera, hein, les ordonnances, les commandements, les règles, mais mes paroles ne passeront point. » Alors, il y a quelques exemples, hein, pour cette parole, une parole de Dieu comme une semence incorruptible. Jean 3, c'est la rencontre avec un certain Nicodème. Hein, vous vous rappelez de ce passage. Et la vie éternelle commence par la nouvelle naissance. Ça, c'est extraordinaire. Ce matin, nous sommes engagés dans ce processus de vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas le moment où je serai de l'autre côté dans la présence de Dieu. Bien sûr que ça en fait partie, mais cette vie éternelle, elle commence dès maintenant, dès que le moment où je confesse mon péché, je reconnais Christ comme mon sauveur, comme mon Seigneur, je passe par la nouvelle naissance, et c'est à partir de ce moment extraordinaire que la semence incorruptible est plantée dans ma vie. C'est une parole éternelle, tu as une parole éternelle. Et ce matin, réjouissons-nous là aussi, mais Seigneur, à qui irions-nous? Où est-ce que je pourrais aller, Seigneur? Parce que tu as planté dans mon cœur cette parole éternelle, cette semence incorruptible, elle a fait du fruit. Regardez-vous quand même de manière positive. Depuis quelques années que vous marchez avec Dieu, vous avez quand même fait quelques progrès. Je sais, comme pour moi, il y en a encore quelques-uns à faire. Je le sais. Mais regardons là aussi, et avec enthousiasme, avec joie, avec reconnaissance, disons, Seigneur, mais à qui irions-nous? Ça fait 10, 20, 30 ans, 40, je pense à notre frère qui est avec nous, hein, ce matin, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'il connaît le Seigneur, le frère François, hein, mais lui aussi peut se dire, Seigneur, bien, avec tout ce que j'ai vécu avec toi, mais où est-ce que je pourrais aller, à qui me confier ce matin? C'est une semence incorruptible. Elle est plantée dans nos cœurs ce matin et elle continue à produire du fruit. Amen. Oui, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle et puis tu l'as implantée dans ma vie. Jean 4, c'est cette rencontre avec cette femme samaritaine. Bon, moi, je vous le rappelle parce que le contexte, il est terrible. La prière du juif de l'époque, peut-être encore aujourd'hui pour les chassidim les plus purs, 3 fois par jour. Seigneur, je te loue de ce que je suis ni un chien, ni une femme, ni un samaritain. Ah, mesdames, vous avez tiré le gros lot. Hein. En plus, si vous êtes samaritaine, c'était la totale. Et c'est dans ce contexte, j'allais dire religieux de l'époque, eh bien que Jésus, hein, va rencontrer cette femme, va la libérer, lui révéler sa vie, mais surtout lui révéler ce que l'on vit encore aujourd'hui. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La parole de Dieu comme source d'adoration. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu ce matin qui prend de ce qui appartient au Seigneur et puis qui nous le donne, eh bien, qu'est-ce que vous voulez adorer? On va lui dire ce que l'on ressent, etc. Mais l'adoration, elle est nourrie, elle est soutenue par la parole de Dieu. Elle est entretenue, c'est comme un feu. Hein, Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et ainsi, bien, par la parole de Dieu, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et le temple est destiné, bien sûr, à l'adoration et au service. Et ce matin, eh bien, oui, nous pouvons dire, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, parce que désormais, par cette parole, eh bien, je peux t'adorer. Je peux t'adorer en esprit, en vérité. Pas simplement le dimanche matin, entre 10h10 et 10h20, hein, en espérant que le pasteur va terminer rapidement, etc. Mais non, ça dépasse le cadre, et vous le savez, nuit et jour, eh bien, nous pouvons adorer le Seigneur parce qu'il a planté en nous, eh bien, une parole de vie éternelle. Après Jean 4, c'est Jean 5. Jean 5, ah, moi j'aime bien, j'ai toujours été interpellé par ces Bethesda, la maison de miséricorde. J'ai toujours été fasciné, moi, par l'organisation humaine pour, là aussi, être guéri. Finalement, si on réfléchit un petit peu, en tout cas c'est ma réflexion, on s'aperçoit que ceux qui sont le plus près de la piscine, soit ont le plus de moyens, soit les moins malades pour être guéris. Parce que Jésus va aller voir cet homme-là, ce paralytique qui est paralysé depuis longtemps, et puis ce paralytique lui dit, mais écoute, moi j'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et quand j'arrive, je suppose, à me traîner, etc., eh bien, il y en a déjà qui a plongé, et puis il est guéri avant moi, etc. Il est dit qu'un ange, de temps en temps, agitait la surface de l'eau. Alors, est-ce que ça faisait du bruit? Mais si vous étiez sourd à l'époque, ben c'était pas pour vous. Est-ce que ça se voyait? Si vous étiez aveugle, ben c'était pas pour vous, là aussi. Ou alors vous aviez du personnel avec vous qui vous plongeait dans la piscine à ce moment-là. Et on réalise que finalement, malheureusement, les hommes ne se sont pas organisés pour que les plus malades, les plus défavorisés soient guéris. Et peut-être que peut-être, alors ça c'est mon interprétation, que s'il y avait une autre organisation, peut-être que l'eau aurait été agitée plus souvent. Mais ça c'est moi. En tout cas, ici, bien, Jésus va redonner le sens à cette Bethesda, maison de miséricorde, par une parole de miséricorde. Par une parole de miséricorde, hein, puisque eh bien, cet homme va être guéri par la présence et la parole de Jésus. Que Dieu, là aussi, nous aide ce matin à considérer sa parole comme une parole source de miséricorde pour chacun d'entre nous. Parce que s'il n'y avait pas encore aujourd'hui la miséricorde de Dieu, nous ne serions pas dans ce lieu. Nous ne serions pas ici à ce moment-là. Mais la vie éternelle, la parole de vie éternelle, c'est une parole de miséricorde. Hein, une image, une corde d'amour qui est lancée dans notre misère. C'est une image, la miséricorde de Dieu. Une corde d'amour qui vient du cœur de Dieu et qui est lancée dans notre misère, dans notre détresse. Hein, Jean 6, après on ira à Jean 8 et puis on arrêtera. Mais pour vous dire un petit peu le sens de ces paroles qui sont éternelles, hein, Jean 6, eh bien on l'a vu tout à l'heure, c'est le pain de vie, hein, Jésus qui est descendu et Jésus qui ce matin nous nourrit par sa parole, nourrit notre âme, notre esprit, même notre corps, nous bénéficions de cette parole qui est une nourriture. Et puis j'aime bien également Jean 8, hein, c'est la parole de Jésus comme lumière. Je suis la lumière du monde. Suite au pardon accordé à une femme. Là aussi, hein, on connaît ce récit, on connaît la manière dont les Juifs veulent utiliser cette femme pour piéger Jésus. C'est terrible, comment? Parfois on se sert de quelqu'un, mais pour arriver à atteindre quelqu'un d'autre. Là aussi. Mais peu importe finalement, la parole de Jésus est claire dans les ténèbres de nos vies. C'est la leçon pour nous ce matin. Elle est claire d'abord ce qui nous rend esclaves pour en être libérés. C'était le problème de cette femme. Et Jésus lui a dit, bien, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus a révélé, bien sûr, à cette femme son péché, mais il l'en a libéré, afin que désormais elle ait une autre qualité de vie, une autre relation. Et puis, la lumière de Jésus, elle éclaire également, bien sûr, ce qui peut nous faire chuter. Hein, parfois, en pleine nuit, heureusement qu'on a des phares devant notre voiture pour éclairer la route, parce qu'il peut y avoir un arbre en travers, il peut y avoir une pierre, il peut y avoir un trou. Et la parole de Jésus nous éclaire également pour éviter l'obstacle, afin de ne pas avoir un accident. Et puis, également, bien sûr, une autre possibilité, c'est de nous conduire sur le bon chemin, en nous montrant les bonnes indications, en nous montrant eh bien, la bonne signalisation. Hein, quand vous êtes perdu en campagne, avant qu'on avait le GPS ou autre, etc., eh bien, s'il n'y avait pas des points de repère, etc., on risquait de tourner en rond. Et la parole de Jésus nous éclaire également sur cette signalisation divine pour nous donner et pour nous conduire dans la bonne direction. Alors, ce sont quelques éléments de cette parole éternelle, de cette vie éternelle. Hein. En tout cas, ce matin, nous pourrions dire, quoi que nous vivions, quoi que nous traversions, comme l'apôtre Pierre dire, Seigneur, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et ce n'est pas une expression d'être désabusé, de dire, oh, ben, de toute façon, Seigneur, j'ai pas d'autre choix que toi. Non, pas du tout. Mais c'est avec enthousiasme, c'est avec reconnaissance, c'est avec foi, c'est avec amour, c'est avec joie. Oui, Seigneur, mais à qui irions-nous? Hein, tu as les paroles de la vie éternelle. Réalisons-le chaque jour peut-être un peu plus profondément. Et puis, si vous voulez peut-être poursuivre ce moment chez vous, relisons le psaume 119. Il est extraordinaire ce psaume 119, hein, où il nous parle de la parole de Dieu comme ordonnance, comme statut, comme parole, etc. Et qui nous enthousiasme, comme Pierre, à dire ce matin, mais Seigneur, finalement, à qui irions-nous? On est bien dans ta présence, on est bien avec toi, parce qu'on sait où on va, on sait comment on y va, et on sait, Seigneur, que tu es fidèle. Amen. Alors que Dieu nous renouvelle ce matin dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa fidélité. On va prier le Seigneur hein, qu'il nous aide et puis qu'au travers encore de ce temps de Sainte-Seine, eh bien, nous puissions avec enthousiasme, oui Seigneur, merci. Il n'y a que toi qui as donné ta vie, il n'y a que toi qui as pu avoir ces paroles. Et ce matin, on veut te rendre grâce hein, de tout notre cœur. Amen. Amen. Merci. Merci Seigneur ce matin pour ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur pour ces temps que nous vivons ensemble depuis que tu nous as rencontrés, depuis que nous avons été convaincus par le Saint-Esprit de péché, depuis que tu as ouvert la porte du ciel pour nous au travers de l'œuvre de la croix. Merci Seigneur. Oui, tu as questionné tes disciples et vous ne voulez-vous pas vous retirer également ? Seigneur, nous voulons dire comme Pierre avec beaucoup d'humilité, mais Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, que ces paroles nourrissent encore ce matin notre enthousiasme, notre foi. Merci Père, parce que nous savons qu'avec toi, nous avons fait le bon choix. Et je prie ce matin pour les frères et sœurs qui vivent des temps de crise. Et nous en vivons tous, des temps d'épreuve, des temps qui sont difficiles. Accorde-leur ta parole, une parole de vie éternelle, une révélation particulière pour qu'il y ait quelque chose qui vienne d'en haut et qui percute leur cœur, qui les aide, Seigneur, à s'approcher et à s'approcher encore un peu plus près de toi dans le beau nom de Jésus. Tu libères, tu affranchis, tu guéris, tu pardonnes. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et dans ces temps, Seigneur, de fête où le monde malheureusement s'égare encore un peu plus, nous voulons avoir les yeux fixés sur toi. Nous prions ce matin pour ceux qui se réclament de toi, pour ceux qui ont besoin de toi. Fais leur grâce. Seigneur, envoie-leur ta parole, afin que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans leur cœur, dans leur vie. Au nom de Jésus, oui, Seigneur, nous sommes fiers, nous sommes heureux de pouvoir déclarer, mais Seigneur, nous n'irons à aucun autre, parce que tu as les paroles, parce que tu es la vie éternelle. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et peut-être que ce matin, quelqu'un est venu justement parce que vous êtes troublé, parce que par rapport à une situation, par rapport à des événements, vous ne savez pas que faire. Eh bien, Seigneur veut vous encourager à persévérer, à lui faire confiance dans tous vos besoins, dans toute votre difficulté, même dans un temps de crise profonde. Eh bien, il est celui qui demeure fidèle. Et si vous voulez manifester ce matin, eh bien, cette réalité aussi dans votre cœur, le confesser, mais Seigneur, eh bien, tu as les paroles de la vie éternelle. Je vous invite là où vous êtes à lever votre bras afin qu'on puisse prier ensemble pour vous, avec vous. Seigneur, oui, je sais, je vis cette situation, mais finalement, à quel autre irions-nous? Oui, oui, on va prier pour. Oui, oui, je vous ai vu. Oui, oui, je vous ai vu. Oui, 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 je vous ai vu. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, je vous ai vu. Amen. Amen. Est-ce que quelques-uns aussi pourraient élever leur voix en faveur de ces bien-aimés ce matin? Seigneur, nous prions ce matin pour ces bien-aimés, avec ces bien-aimés. Sommes heureux, Seigneur, ce matin d'être ensemble dans ta présence. Sommes heureux de nous soutenir les uns les autres. Sommes heureux de pouvoir dire, Seigneur, bien non. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous prions, Seigneur, pour ces bien-aimés, afin que tu leur accordes ta grâce. Ils ont besoin d'une parole. Ils ont besoin, Seigneur, de quelque chose qui vienne du ciel dans leur situation. Le prophète dira, « Oh, si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux, et tu l'as fait, Seigneur. » Alors nous prions pour que dans ces ténèbres, dans ces épreuves, dans ces temps de crise, il y ait, Seigneur, comme une déchirure qui va laisser passer la parole de Dieu, lumière pour éclairer, parole de bénédiction, parole de guérison, parole de consolation, parole de foi. Seigneur, tu n'en as pas fini avec ces bien-aimés. Et nous te demandons, dans le nom de Jésus, de les visiter, de leur accorder toute ta grâce pour que ta parole agisse et que, en réponse à leur foi, à leur reconnaissance, ils vivent quelque chose de particulier avec toi. Par ta parole, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Peut-être encore un ou deux pourraient prier pour ces bien-aimés ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci d'honorer la foi de tes enfants. Amen. Oui. Amen. Merci. Oh Jésus. Merci Père éternel. Amen. 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 Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit Jésus. Béni soit Jésus. Amen. Béni soit Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 On la propose peut-être que notre frère Jean-Jacques pourrait demander aussi à Céline et puis aussi peut-être à notre frère Serge de venir sur le devant pour partager la Sainte Cène, la présenter dans cette réalité spirituelle. Et puis je repensais également à ce texte d'Apocalypse pour introduire ce moment où Jésus dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir, je connais tes œuvres, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance. » Mais que tu as gardé ma parole sans renier mon nom, je te donne des membres de la synagogue de Satan, je les ferai venir se prosterner, parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Et puis, du vainqueur, de celui qui garde ma parole, de celui qui l'honore, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus jamais, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Parce que tu as gardé ma parole. Amen. Que Dieu soit honoré ce matin. Voilà, nos frères et sœurs peuvent venir sur le devant pour présenter ces temps. On pourrait se lever, nous qui sommes baptisés et qui, peut-être ce matin, bien, voulons là aussi saisir tout à nouveau hein, la grâce de Dieu. Voilà, je vous invite à vous lever et puis on pourra prendre encore un temps de reconnaissance.